Les Israéliens pensaient qu'avec le temps, les Palestiniens oublieraient la Palestine et iraient vivre ailleurs. Que les générations passant, ils ne se souviendraient pas de la Palestine et perdraient leur attachement à leur pays. Mais ils se trompaient.
Ben-Gourion a commis beaucoup d'erreurs, bien sûr. Il pensait à l'époque qu'avec le temps, les Palestiniens finiraient par oublier. Ils n'ont pas oublié et on ne les laisse pas oublier. Si une grande partie de ceux qui ont quitté cet endroit n'ont pas trouvé leur place ailleurs, c'est aussi parce que les pays qui les ont accueillis ne leur ont pas permis de s'y faire une place.
Ils ne les ont pas intégrés. Ils les ont mis dans des camps de réfugiés. Les Palestiniens sont les seuls dont le statut de réfugié se transmet d'une génération à l'autre.
Ils leur ont refusé toute forme d'intégration, pour des raisons qui leur sont propres, mais aussi pour garder éternellement vivace la question palestinienne. C'était bien sûr une arme diplomatique et morale contre l'État d'Israël.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
En novembre 1947, alors que les réfugiés se comptent encore par millions en Europe, l'ONU vote la partition de la Palestine mandataire et entérine la naissance de l'État d'Israël. Le rêve sioniste théorisé par Herzl à la fin du 19e siècle se concrétise, offrant espoir et refuge aux survivants de l'Holocauste. Toutefois, Ben-Gourion, chef de la jeune nation, se heurte à deux obstacles qu'il va vite balayer. La condamnation des rabbins et des juifs orthodoxes pour qui la sédentarisation sur une terre est contraire à la volonté divine et, plus grave, la présence des Arabes qui acceptent de plus en plus mal l'arrivée incessante de nouveaux colons juifs. Né par et dans la guerre, Israël, 70 ans plus tard, contrôle désormais militairement la quasi-totalité de l'ancienne Palestine. William Carrel et Blanche Finger ne cessent de s'interroger sur l'évolution de ce conflit, apparemment sans fin. En 1997, ils avaient réalisé un film très documenté sur les 50 premières années du jeune État. Pour ce nouvel anniversaire, et alors que l'occupation des territoires conquis en 1967 se poursuit, que la colonisation se renforce et que la paix semble désormais inaccessible, ils reviennent avec trois films passionnants, mêlant images d'archives et entretiens avec des intellectuels, israéliens et palestiniens, sur l'histoire politique et idéologique d'Israël, passée à marche forcée d'État des Juifs à État juif. Histoire d'Israël et Israël-Palestine, une terre deux fois promise, sont désormais disponibles en DVD et ils sont en replay sur Arte jusqu'à fin juin. Bonsoir William Carrel.
Bonsoir.
Bonsoir Blanche Finger. Vous avez gardé le même titre que vos films de 1997. Comme s'il y avait encore des zones obscures à éclairer, des questions qui n'ont pas eu de réponse à poser à nouveau, comme s'il y avait une sorte de mystère sur cette terre sainte à éclaircir. Est-ce que c'est ça votre démarche, William Carrel? Oui,
la différence, c'est que le film de 96, commençait au partage de la Palestine le soir de l'ONU, et raconter en 3 minutes cette histoire, ce qui était une frustration complète. Le film était surtout centré sur l'arrivée de la droite au pouvoir avec Begin, ensuite Sadat qui arrive à Jérusalem, l'assassinat de Rabin, l'intifada, la guerre du Kippour. Donc il y avait cette frustration d'avoir traité si brièvement la première partie. Et surtout, on n'avait jamais parlé du début, c'est-à-dire de commencer cette question. On voulait commencer le film au moment où Herzl écrit l'État des Juifs et pas l'État juif, même comme ça a été traduit dans l'édition française, jusqu'à 67. Arte nous avait dit qu'on allait jusqu'à 67 pour le double anniversaire des 70 ans et des 50 ans. On a demandé à aller un an plus loin en 68.
C'est-à-dire le début de la colonisation.
Voilà, la première colonie.
Oui. Blanche Finger, vous avez tous les deux un fort attachement à Israël. Vous avez la nationalité israélienne. Vous avez vécu très longtemps. Vous êtes connue là-bas. Vous êtes une génération des kibbutz. Est-ce que travailler aujourd'hui, on voit ce qui vient d'arriver à Nathalie Portman, Dieu sait pourtant si elle est attachée à son pays, Vous aussi, j'imagine que faire à nouveau ce genre de film et faire parler des gens qui relèvent, des deux côtés d'ailleurs, palestiniens et israéliens, les erreurs, les manquements, les mensonges et les réussites, est-ce que ça vous pose un problème en Israël ?
Non, comme vous le savez, en Israël, il y a une opposition de la part des intellectuels, des cinéastes, des artistes en général, et puis une société civile qui se pose, on l'entend moins, mais elle est là, très vivante. Donc, si vous voulez, nous, on s'inscrit dans un chemin que mènent d'autres en vivant même là-bas. Et je pense que pour eux, c'est vrai que c'est un chemin encore beaucoup plus difficile.
Et pourtant, ce qui est frappant, alors il y a des films différents. Il y a le film avec les archives et le commentaire de l'histoire de ces 70 ans passés. Mais il y a aussi ce film formidable avec des écrivains, dont on parlera aussi un petit peu plus tard. Et à ce propos-là, il y a des écrivains, notamment je pense à Ronit Matalon, qui malheureusement est morte cette année, comme à Ron Appelfeld, comme à Haïm Gouri. Il y a eu beaucoup de départs de ces intellectuels. Ronit Matalon dit hein, quelque chose de très fort. Elle dit, mais en fait, les gens, les Israéliens, maintenant, occultent. C'est-à-dire, ils ne parlent plus d'occupation, c'est un mot qui est banni. Ils vivent comme s'il n'y avait pas un mur, comme s'il n'y avait pas la guerre. Ils se sont détournés de cette histoire. Et il y a une sorte d'indifférence. Est-ce que vous avez ressenti, William Carell, vous aussi ?
Oui, elle dit même que si un Martien débarquait en Israël, il ne saurait même pas qu'il y a une occupation. Sur le fait, comment est-ce qu'on peut traiter facilement cette histoire ? Le gouvernement a énormément changé en Israël, là vraiment la droite durée tout pouvoir. Ce qui nous a surpris, en tout cas moi, c'est que, par exemple, un des écrivains nous a dit qu'avant notre arrivée, elle avait reçu une lettre du ministère de la Culture lui demandant, elle savait qu'elle allait parler à la télévision étrangère et qu'elle allait surtout pas dire du mal d'Israël, ce qui est quand même nouveau, ça n'avait jamais existé. Il y a eu un deuxième point, c'est qu'il y a une fondation française qui donnait très souvent à tous nos films une subvention comme une sorte de CNC et qui cette année a envoyé une lettre. Ils avaient déjà accepté le principe de la subvention en demandant est-il vrai qu'il y a Shlomo Sand dans le film qui est détesté en Israël. Si vous ne l'enlevez pas, on vous supprime la subvention. On l'a évidemment pas supprimé, mais c'est nouveau, ça se serait jamais passé avant.
Alors justement, vous parliez de Shlomo Sand, de William Carell. On va l'entendre dans un extrait, ainsi qu'Elie Barnavi et Dina Porat, une historienne qui parle justement de cet État qui au départ était laïque, d'inspiration socialiste et qui, peu à peu, est devenu de plus en plus religieux.
Quand Herzl présente son projet sioniste, tous les rabbins, conservateurs, réformistes, orthodoxes, s'opposent au sionisme. On est vers la fin du 19e siècle, début du 20e. Tous.
Ils le perçoivent comme un péché en affirmant que la diaspora est une punition divine et que Dieu seul peut décider du retour du peuple juif en Terre Sainte par l'arrivée du Messie.
Herzl dit, il faut séparer la religion de l'État. On ne laissera pas les rabbins nous diriger. Qu'ils restent dans leur synagogue, mais qu'ils ne nous disent pas quoi faire.
En fait, il y a eu vraiment un retournement de la part de la droite religieuse et des juifs les plus orthodoxes qui maintenant parlent d'Israël comme la terre promise par Dieu. Comment est-ce que ce retournement a pu s'opérer, Blanche Finger ?
Mais je pense que la fracture, c'est 1967. Et comme le disent des historiens, en fait, à ce moment-là, on dit « on retourne sur nos terres ». Alors que les premiers sionistes qui s'installent sur les plaines côtières, en Galilée, et sont très très loin de l'idée d'aller s'installer sur les terres bibliques. Ce sont des gens laïques, socialistes, ils n'ont aucun attachement religieux. Et en 67, il y a une rupture et je pense que le récit national est brisé. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un récit qui arrive comme ça sur l'idée de nos terres bibliques, on les retrouve enfin.
Il y a d'ailleurs William Carell dans ces images d'archives que vous diffusez dans la première partie de votre film Israël-Palestine. Il y a l'arrivée devant le mur des Lamentations de tous ces soldats et tout de suite on voit à ce moment-là les religieux qui arrivent et qui commencent à prier. Et Elie Barnavi dans votre film, il a une formule intéressante. Il dit en fait cette conquête a été une conquête romantique.
Et le romantisme en politique, c'est plutôt dangereux, c'est vrai. C'est un tournant. Un des témoins dit dans le film, il y a Israël, c'est deux pays différents, avant 67 et après. Sur les colonies, c'est vrai que ce qui gênait, vous dit, est-ce que ça gêne en Israël quand on aborde certains sujets délicats, le fait qu'on dise par exemple que Shimon Peres était à l'origine des premières colonies, que Golda Meir et tous les gens des partis travaillistes n'ont strictement rien fait pendant des années. Les deux seules grandes initiatives qui ont été faites une par Begin qui a décidé en une nuit de quitter tout le Sinaï, et avec des milliers de colons à chasser, et Ariel Sharon, pour qui je n'ai aucune sympathie, qui a évacué Gaza en une nuit, alors que du côté travailliste, rien n'a été fait pendant des années.
Parmi, effectivement, vos interlocuteurs, tous relèvent ce tournant de 1967. On écoute.
Ça a commencé comme ça. Shimon Peres était complice de la première vague de colonisation. Étant donné que dans le Parti travailliste, il y avait un courant qui était plutôt extrémiste, il est évident qu'il fallait dire dès le début, il n'en est pas question, nous ne sommes pas venus ici pour ça. Nous n'avons pas le droit. La loi internationale l'interdit. Il y a des règles strictes. Soudain, en 67, nous sommes devenus une société occupante, colonialiste. Ça transforme une société. On ne se comporte plus de la même manière. C'est à ce moment-là qu'Israël a vraiment changé. Le programme national était d'obtenir la paix avec les Arabes, de s'intégrer dans la région, d'obtenir enfin la paix. Israël avant 67 et après 67, ce sont deux sociétés différentes, deux pays différents, je dirais même deux populations différentes.
Ce sont les commentaires d'Eli Barnavi et de Gideon Levy, le grand journaliste de Haaretz. Mais effectivement, ce tournant de 67, ça a tout changé. Alors vous dites en 68, la colonisation a commencé, mais surtout, c'est dans l'idée de ce pays, 67 est une sorte de porte ouverte où on peut s'engouffrer et récupérer. Avant 67, c'était 10% du territoire de la Palestine qu'Israël possédait. Après, c'est 80%. Et du coup, tout devient possible, William Karel Blanchfinger.
Les colonies, ça représente les colonies 400 000 personnes.
En Cisjordanie et 300 000 à Jérusalem.
Oui, mais disons en Cisjordanie. Et donc, si vous voulez, ces 400 000 personnes, je ne sais pas combien représentent les religieux, mais surtout beaucoup de gens de la classe moyenne qui ont vu là l'occasion d'avoir des maisons, à des loyers beaucoup plus abordables, une vie beaucoup plus sympathique. Mais en fait, les gens qui vivent en Israël, c'est pas seulement qu'ils ne se préoccupent pas, mais ils n'ont pas de bénéfices secondaires eux-mêmes de cette occupation. Je veux dire, pour la population qui vit en Israël, ça arrive malgré elle, en fait. Je veux dire, on dit qu'ils ne réagissent pas, certainement, ils ne réagissent pas comme ils devraient, mais c'est quelque chose qui est au-dessus d'elles, comme une décision qui les concerne plus. Eux, ils sont comme tout dans la classe moyenne, dans l'idée de comment vivre au quotidien. Et la vie n'est pas facile pour la classe moyenne.
Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend beaucoup les intellectuels et les historiens parler de ce tournant fondamental de 67, de cette modification de la société et de l'esprit. Et c'est vrai qu'en 1967, il n'y avait pas énormément de personnes pour dire stop, il faut s'arrêter, il faut quitter tout de suite les territoires, il faut négocier très vite. Il y avait une personne, c'était un grand philosophe, un grand religieux. Il est mort en 94, donc il n'est pas dans votre film. C'est Yeshayahu Leibovitz, qui était le seul en 67, alors qu'il était profondément attaché à Israël, profondément religieux, et il s'est fait descendre en flammes quand il a osé dire ce genre de choses. C'était chez nous, sur France Inter, dans l'émission de Daniel Mermet, c'était en 91.
Cette victoire était une catastrophe politique et historique pour l'État d'Israël. Elle a corrompu l'État et même corrompu la conscience des gens. Il y a ici, en général, une accommodation psychologique à la violence. En conséquence, de fait, que nous exerçons une domination violente sur notre peuple. Cela produit une mentalité de violence, même entre nous.
Mais On vous répond, à chaque fois que vous dites ça, on vous répond que, de leur côté, les Palestiniens sont violents, qu'il y a des terroristes et qu'il y a beaucoup de sang israélien qui a été versé.
Qui exerce aujourd'hui une domination violente sur l'autre partie ? Nous sur les Palestiniens ou les Palestiniens sur nous ? La domination israélienne sur les États occupés est un terrorisme. C'est la terreur. Ce gouvernement est un gouvernement annexionniste, comme les gouvernements de la République française avant de Gaulle, qui dominaient l'Algérie par la violence.
William Carrel, c'est vrai que ses propos tenus en 91 scandalisaient en Israël. Aujourd'hui, avec un langage plus diplomatique, les intellectuels que vous avez interrogés ne disent pas autre chose. Ils disent l'occupation a des effets sur une société. Ça augmente la violence entre les Israéliens eux-mêmes et ça forme des générations de jeunes hommes qui font leur service militaire, souvent dans les territoires occupés, et qui reviennent avec... une mentalité changée. Vous qui connaissez Israël depuis longtemps, vous devez ressentir ça aussi.
Oui, mais on est parti depuis pas mal d'années donc d'Israël, mais à travers les entretiens, on voit bien que c'est un problème majeur le fait. C'est vrai que du côté palestinien aussi, ce qu'il y avait de très bien, on a fini notre film avec la marche des 1000 femmes palestiniennes et israéliennes qui marchent dans le désert, des mères endeuillées. C'était une lueur d'espoir qui restait. Mais Zruya Shalev dit « Comment voulez-vous mettre au monde un enfant quand une sorcière, le premier jour, se penche sur son berceau et vous dit « Dans 18 ans, il sera à moi ».
C'est ce que dit Edgar Carret quand il raconte qu'il est allé voir le Premier ministre Netanyahou pour lui dire « Qu'est-ce que vous faites pour la paix ?» Parce que mon fils, à moi, il a 10 ans et il va faire son service. Qu'est-ce que je peux lui dire ? Et le Premier ministre lui aurait répondu « Il n'y a rien à faire pour la paix ».
Mais oui, ce qui est, enfin, Netanyahou, c'est un peu spécial. Disons, il ne fait pas grand chose pour la paix. C'est pour ça que la plupart des témoins, quand on leur parle de, pas d'optimisme et de la possibilité de deux États vivant côte à côte et tout ça, plus personne n'y croit. Personne n'aura, à moins de déclencher une guerre civile, le courage d'expulser 700 000 colons, c'est certain. Et disons, avec l'arrivée de Trump au pouvoir, ça va pas faciliter les choses.
Mais c'est vrai que là, on entend aussi beaucoup David Grossman, bien sûr, parce que ce camp de la paix qui, à une époque, était si important, s'est rétréci aujourd'hui. Il n'y a plus guère que les intellectuels qui parlent encore et qui manifestent pour la paix. On va écouter David Grossman. C'est dans votre autre film, Histoire au pluriel d'Israël, où vous interrogez des écrivains.
Notre victoire a soudain multiplié par 5 notre territoire. D'un pays minuscule, nous sommes devenus un empire. D'un peuple qui, durant toute son histoire, a été dépendant des bonnes intentions des autres peuples, et le plus souvent de leurs mauvaises intentions à notre égard, nous sommes devenus des souverains. Nous pouvons décider pour des millions de personnes à quel moment ils peuvent aller dormir, quelles routes leur sont interdites et à quelle heure commence le couvre-feu. On peut entrer brusquement dans leur chambre à coucher ou dans celle de leurs enfants. Nous pouvons décider de tout. Si vous contrôlez un peuple pendant 50 ans, vous vous mettez inévitablement à penser qu'il vous est inférieur, qu'il y a différentes catégories d'êtres humains. C'est à ce moment-là que commence l'autodestruction d'une société. Si elle se met vraiment à croire cela, alors commence notre chute en tant que société et en tant que démocratie. Aujourd'hui, il faut expliquer aux gens ce que vous voulez dire quand vous parlez d'occupation. La plupart des gens n'appellent déjà plus cela de l'occupation. Ils disent « l'occupation », entre guillemets, ou « la soi-disant occupation ». Il est évident qu'il est impossible de garder une attitude démocratique quand on contrôle un autre peuple depuis 50 ans.
Thank you. على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض ما يستحق الحياة تردد إبريل رائحة الخبز في الفجر تعويذة امرأة للرجال كتابات أسخيليوس أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على خيط ناي وخوف الغزاة من الذكريات على هذه الأرض ما يستحق الحياة نهاية أيلول سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها ساعة الشمس في السجن غيم يقلد سربا من الكائنات هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين وخوف الطغاة من الأغنيات على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة
Mon prénom à la maison était Erwin. C'était un nom qui signifiait l'appartenance à la culture allemande. Les gens qui venaient en Israël changeaient leur nom et leur prénom. Quand je suis arrivé en Israël, les rescapés n'étaient pas accueillis dans la joie. L'idéologie voulait d'eux, mais j'étais un enfant. J'étais au kibbutz. Personne ne m'a jamais demandé « Qui es-tu »« D'où viens-tu ?» Ce qu'on attendait alors des réfugiés, surtout des jeunes, j'avais 14 ans quand je suis arrivé en Israël. On attendait d'un jeune qu'il se fonde dans le mythe héroïque du pays, qu'il soit agriculteur, soldat. On exigeait de lui qu'il se dépouille de son passé. La devise était « Ici, on construit le juif nouveau ». Et moi, j'étais attiré par le juif ancien.
C'était Aaron Appelfeld qui est mort cette année, tout comme Ronit Matalon, comme Haïm Gouri, Blanche Finger, William Carell. Vous avez interrogé dans un troisième film, Histoire d'Israël, une dizaine d'écrivains, comme si il n'y avait plus que dans ce monde de la culture des hommes et des femmes qui se posent des questions, tout en disant que ils ne ressentent pas dans la population lassés de cette guerre, ils ne ressentent pas l'envie de continuer à militer pour un dialogue, pour la paix.
Sur les écrivains, effectivement, la partie où ça s'est vraiment beaucoup dégradé avec l'arrivée de la nouvelle ministre de la Culture, Regev, c'est dans le cinéma. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais ils ont supprimé toutes les subventions aux films qui critiqueraient même légèrement Israël. Et par exemple, au Festival de Cannes, cette année, c'est la première fois où dans aucune sélection, ni Parallèle, ni Un certain regard, il y a un film israélien. Pire, disait le réalisateur de Foxtrot, qui passe la semaine prochaine, ils n'ont pas présenté de film au comité de sélection. C'est pas qu'ils n'ont été retenus, parce qu'il n'y a rien, ça a été un vide. Il y a 15 films qui se sont arrêtés en milieu de tournage. Donc, pour eux, pour le cinéma, c'est très difficile. Pour les écrivains, ces gens-là sont intouchables. En tout cas, ce qu'on appelle les trois ténors.
Oui, David Grossman, Amos Oz
et Aleph Beth Yehoshua.
Oui, Yehoshua.
Oui, mais vous parliez tout à l'heure du camp de la paix qui a été détruit. C'est vrai que les Palestiniens sont en grande partie responsables de... Il y a eu un moment, une très forte pression de tout le camp de la paix, Amos Oz en tête, et il en parlait longuement dans notre film, en demandant tous les matins à Ariel Sharon de quitter Gaza pour laisser quitter Gaza et ça va être un exemple, on va leur montrer qu'on est capable de partir. Ils sont partis un dimanche matin. Après, le lendemain, ils ont reçu des pluies d'obus. Et Amos Oz disait le lendemain, le Shalom Arshab, le camp de la paix était mort. On n'était plus crédible.
Oui, d'ailleurs, parmi les intellectuels palestiniens que vous avez interrogés, Elias Sambar, par exemple, il y a, pour une fois, on entend des critiques sur les erreurs, effectivement, commises depuis 48, depuis les discours haineux des Arabes. Et puis surtout, il relève, pour une fois, le fait qu'au fond, cette situation, elle arrange la nomenclatura palestinienne, qui se sont enquistés finalement dans cette guerre sans fin, qui reçoivent des subventions et qui ne font rien eux-mêmes pour sortir un leader. Il faut dire qu'Israël en a emprisonné beaucoup qui auraient pu être des leaders.
Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est nouveau ce que dit Sari Nusseibeh sur plusieurs points. Il dit que avoir refusé le partage en 47 c'était une erreur, et il dit que c'est la première d'une série d'erreurs. Il dit qu'il est absurde de ne pas reconnaître que les Juifs avaient leurs racines et des ancêtres en Palestine. C'est ce qui était intéressant du côté d'avoir des gens qui acceptent de faire leur autocritique. Par exemple, Elias Sambar dit sur le moufti de Jérusalem qui était laissé jeter dans les bras du terre. Et surtout, il dit comment la direction palestinienne a pu être aveugle au point de ne pas avoir compris en 45 que la Shoah avait complètement changé le cours de l'histoire et que c'était une marche irréversible.
Oui, mais en même temps, c'est vrai que Ben Gurion, notamment, il l'avait dit très clairement, il avait parié sur le fait que bon, les vieux mourront et les jeunes oublieront. Eh bien, en fait, on a l'impression que la mémoire palestinienne, aujourd'hui, qu'elle n'intéresse plus tellement les pays arabes, mais que les jeunes générations palestiniennes, elles, retrouvent des racines, voudraient revenir sur les terres de leurs arrière-grands-parents.
Oui, c'est William extraordinaire, Carell. Cette... Ouais. On racontait toujours tout le monde connaît l'histoire du peuple juif, cet acharnement pendant 2000 ans à ne pas disparaître, et on retrouve la même volonté du côté palestinien. Ça se transmet de génération en génération. Ils ne changeront pas. C'est ça qui est formidable. Même dans l'indifférence où se trouve, par exemple, là, il y a eu tous les événements de Gaza, il y a eu quand même 40 Palestiniens tués dans l'indifférence totale. Tout le monde dit qu'il n'y aura pas d'État palestinien, sinon il n'y a aucune solution. David Grossman le dit, où il y aura deux États côte à côte, où il n'y aura plus d'État israélien.
D'ailleurs, justement, cette question de l'avenir, y a-t-il un avenir avec de la paix ou de la coexistence entre les peuples? On va écouter un dernier extrait de votre film « Histoire au pluriel d'Israël ».
Nous n'avons aucune certitude d'avoir un avenir ici. C'est une phrase qui m'est très difficile à dire parce qu'il n'y a rien de plus précieux à mes yeux que le fait que nous, les Juifs, soyons revenus ici en Israël et y ayons bâti notre pays.
Est-ce qu'il y a un risque que demain Israël disparaisse ? Je ne le pense pas. Mais le danger, c'est que nous soyons stupides et que ce pays soit gouverné de manière lamentable et dangereuse. Et c'est ce qui se passe. Ce n'est pas seulement un danger, c'est une réalité.
Le problème, c'est qu'en Israël, il y a une majorité silencieuse qui vit sa vie, va au travail, regarde la télévision le soir et est plutôt déconnecté de tout ce qui se passe.
C'est vrai que notre vie est menacée. Il y a des attentats, des guerres, la peur. Et d'un autre côté, il y a un comportement hédoniste. Partout, les restaurants sont bondés avec une cuisine raffinée.
J'ai l'impression que nous sommes sur le Titanic, que les gens se disputent tout le temps pour avoir une meilleure cabine avec vue sur la mer ou un deuxième dessert. Et je leur crie, il y a un iceberg en face, et on fonce dedans.
On a entendu successivement David Grossman, Amos Oz, Benny Barbache, Zeruiah Shalev et bien sûr Edgar Keret qui termine toujours par dire les choses avec beaucoup d'ironie. Mais effectivement, cette question de l'avenir aujourd'hui, au fond, elle termine votre film comme la guerre de 67 terminait le précédent. C'est une question en suspens, l'avenir. Qu'est-ce qu'on en sait ?
Oui,
Blanche Finger.
Oui. Je veux dire, ce qui est terrifiant, c'est qu'entre le moment où on a quitté notre salle de montage et où on a quitté Israël, il s'est passé tellement de choses. C'est un processus qui ne s'arrête jamais, qui continue à évoluer, et pas dans le bon sens, bien sûr, quotidiennement.
Et puis parce que, finalement, qu'on soit juif ou pas, ce qui se passe sur cette terre concerne absolument tout le monde. C'est ça qui est fascinant. 70 ans après, ça reste toujours quelque chose comme dans la mauvaise conscience aussi de l'Occident, William Garrel.
Oui. On a laissé à Elie Barnavi la conclusion du film sur l'histoire, où il dit que c'est totalement faux de parler des différentes guerres d'Israël. Il dit que c'est une longue guerre qui, avec de temps en temps quelques petites pauses.
Edgar Keret lui parle d'une guerre en biennale, donc deux fois par an, on y retourne. Voilà, en tout cas, ces trois films absolument formidables. Palestine, Israël, une terre deux fois promise, et Histoire d'Israël avec les 10 écrivains que vous avez interrogés. C'est à revoir en replay jusqu'à la fin du mois de juin sur Arte. Et bien sûr, ils sont disponibles en DVD. Merci à tous les deux, Blanche Finger, William Garrel. C'était passionnant de vous avoir.
Merci
à vous.
Merci beaucoup.